Radio Kapi.
Avec patience Banangé.
Retour timide des activités trois jours après des accrochages entre les rebelles du M23 contre les combattants FDLR à Kisharo, au Nord Kivu. Des sources sur place déplorent cependant les pillages systématiques de plusieurs biens de la population attribués aux combattants FDLR. Les membres des 10 coopératives d'épargne et des crédits ainsi que des deux banques de Bukavu tombées en faillite entre 2010 et 2014 font un sit-in cet avant-midi devant la Banque centrale du Congo. Ils réclament environ 50 millions de leurs épargnes disparues dans la faillite de ces institutions financières. Notre invité dans ce journal est le président de l'Assemblée provinciale du Sankuru, Lambert Mokondjo, revient sur l'engagement de sa province pour la protection du parc national de la Lomami. C'était à l'issue des assises de la deuxième édition du comité de coordination des sites Kokosi élargi Maniema Sankuru Tchopo. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu. Les activités tournent toujours au ralenti à Kisharo, trois jours après des accrochages entre les rebelles du M23 contre les combattants FDLR dans cette entité. Kisharo, chef-lieu du groupement Binza, est situé à 40 km au nord-est de Rutshuru Centre. Des sources à Kisharo confirment le retour timide depuis hier lundi de quelques habitants qui avaient fui vers Nyamilima. Ces sources déplorent cependant les pillages systématiques de plusieurs bien de la population, pillage attribué aux combattants FDLR. Denise Loukesso.
Un habitant de Kisharo, joint ce mardi matin, confirme que la situation est relativement calme. Quelques écoles ont repris en dépit des activités commerciales qui se déroulent timidement. Cependant, la population vit toujours la peur au ventre, craignant d'éventuels affrontements entre les FDLR et les rebelles du M23. Les week-ends derniers, en effet, les combattants FDLR, visiblement venus de Kassav, l'un de leurs bastions, ont attaqué la position M23 à Kisharo, c'était vers 18h. Des échanges de tirs d'environ 4 heures s'en sont suivis, provoquant ainsi un mouvement des habitants vers la cité de Nyamilima, confirme cet habitant. Au cours de cette attaque, selon la même source, les FDLR se seraient livrés aux actes de pillage dans des habitations, pharmacies, boutiques et kiosques. Des biens de valeur, médicaments, vivres et du bétail auraient été emportés par ces combattants. Toutefois, Kisharo reste toujours sous occupation rebelle. Les populations de Binza se disent inquiètes de la situation sécuritaire toujours préoccupante dans leur entité, caractérisée par des accrochages à répétition, ce qui ne permet pas aux habitants d'accéder dans leurs champs, craignant d'être pris entre deux feux. Ils en appellent à l'intervention de l'armée régulière pour leur libération. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Pendant ce temps, Madame Liberata Rubumba, une femme leader du territoire de Rutshuru, déplore l'occupation du groupement Binza par le M23 et ses alliés. Binza, c'est le dernier groupement de la chefferie des Bwisha dans les Rutshuru qui n'était pas occupé par le rebelle. Administratrice adjointe honoraire de ce territoire, Madame Liberata déplore les conditions de vie des habitants des Binza qui viennent aussi de fuir leur village. Elle demande au gouvernement de faire tout son possible pour récupérer les zones occupée par le rebelle. Madame Liberata Rubumba est au micro de Rosalie Zawadi.
Il y a de nouveaux déplacés qui arrivent à grand nombre en provenance de Binza. Binza, c'est le seul groupement qui restait entre les mains du gouvernement pour le territoire de Rutshuru. Et aujourd'hui, Binza est aussi entre les mains du M23. Et toute la population de Binza est ici à Goma, d'autres sont partis en Ouganda. Nous déplorons cette situation. Nous devenons de plus en plus malheureuse. Et c'est toujours la femme qui est la première victime. Ainsi donc, que le gouvernement fasse tout pour que nous puissions rentrer chez nous et qu'il fasse tout pour récupérer tous les milliers qui sont déjà pris par les M23. À Binza, les villages qui ont été pris récemment, il y a Kiseguro, il y a le village Katiguru, il y a le village de Kisharo, il y a le village de Buganza, il y a le village de Nyamirima et Ishasha aussi. Voire même Nyakakoma aussi, c'est fait partie du groupement de Binza. Tous ces villages-là sont entre les mains du M23.
Dans les Haut-Katanga, coup d'envoi ce lundi à Lubumbashi de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites à la femme et à la jeune fille. pour la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est point focal de la synergie des luttes contre les violences basées sur les genres. Très souvent, les victimes de ces violences ne dénoncent ni ces actes ignominieux ni leurs bourreaux, ce qui les rend encore plus vulnérables. Liliane Komba est au micro de Jean Gandou.
Lorsque les bandits entrent dans les maisons, abusent aussi des femmes et se permettent même de photographier pour envoyer dans les réseaux. Il y a aussi les violences qui nous proviennent des universités et des écoles. Nous pensons vulgariser les lois et les instruments juridiques qui protègent la femme et la jeune fille. L'ignorance de cela empêche la femme de poursuivre les bourreaux. Elle va garder son silence, mais elle ne sera pas non plus épanouie. Elle va s'encloisonner à elle-même. Et c'est ce qui est fatal. Alors, elle demeure dans ces violences parce qu'elle n'a pas de moyens de survie. Les survies proviennent des fois de son bourreau, comme pour les cas de violences conjugales. Nous allons aussi faire la clinique juridique avec les collectifs des femmes juristes et avocats, les organisations féminines de la société civile, les députés en partenariat avec le ministère des Genres, Familles et Enfants pour descendre dans la population et déceler les mots qui rongent par rapport aux violences et y apporter des solutions.
Les membres des 10 coopératives d'épargne et de crédit ainsi que des 2 banques de Bukavu tombées en faillite entre 2010 et 2014 ont fait un sit-in devant la Banque centrale du Congo ce mardi avant midi. Ils réclament environ 50 millions de leurs épargnes disparues dans la faillite de ces institutions. Ils espèrent recouvrer leur mise à travers les plaidoyers de la banque de tutelle. Jean Kassami a suivi les manifestantes devant le bâtiment de la direction provinciale de la Banque centrale à Bukavu. À vous.
Des chants de déception et d'interpellation envers les autorités ont été scandés par un échantillon de victimes regroupées devant la représentation de la Banque centrale du Congo à Bukavu. Janvier Mizokabare, leur porte-parole est catégorique.
C'est au fait la Banque centrale qui prend les choses en main. Parce que c'est elle d'abord qui donne les autorisations à toutes ces institutions, à toutes les banques, qui fonctionnent comme des bras de la Banque centrale du Congo. Alors, en cas de problème, c'est auprès de la Banque centrale qu'il faudra s'adresser. Ici, on réclame que entre 50 et 60 millions de dollars américains. Les slogans du chef de l'État doivent quand même aller jusqu'au bout. L'État des droits.
L'espoir de trouver une solution repose sur la Banque centrale du Congo, oui, mais les instances judiciaires et parlementaires sont aussi mises à contribution.
Certains députés nationaux sont en train de se saisir de la question. Et d'ici là, il y aura une question orale à son Excellence Madame le Gouverneur pour qu'elle vienne quand même s'expliquer devant les élus du peuple.
Le directeur de la Banque centrale du Congo à Bukavu réserve tout droit de réponse à sa hiérarchie nationale. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
L'argent, dit-on, est les nerfs de la guerre. Cela est d'autant plus vrai en Ituri, où selon la coordination provinciale de la société civile, l'exploitation de l'or contribue à pérenniser les conflits armés en Ituri. Selon cette structure citoyenne et certains acteurs politiques, les différents groupes armés contrôlent plusieurs sites miniers, surtout dans les territoires d'Irumu et de Djougou, où ils perçoivent des taxes et redevances. Face à ces défis, la société civile demande au gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exploitation de l'or dans cette province. Les reportages d'Isaac Remoyope rendus par Jean-Claude Lokidile.
Presque tous les groupes armés locaux en Ituri, FRPI, MAPI, ZAIR, CODECO, FPIC et le groupuscule Mai Mai contrôlent des localités minières notamment Dala, Mbijo, Yedi, Bavi, Nizi. Tous les creuseurs artisanaux qui exploitent de l'or dans leur rayon d'action sont obligés de prélever une partie de minerais en contrepartie de taxes. Selon la société civile, des dizaines de coopératives minières financées par des expatriés chinois y travaillent avec des machines modernes. Elle verse des sommes colossales aux leaders de ces milices, ce qui alimente les conflits et est à l'origine des affrontements entre ces groupes armés pour le contrôle des sites miniers. La société civile demande au gouvernement de suspendre l'exploitation de l'or en attendant que l'autorité de l'État ne soit restaurée dans cette région du Donné-Lossa.
Ces Chinois, soutenus par le gouvernement parce qu'ils sont gardés par nos forces armées, ils sont gardés par la police nationale congolaise. Nous avons dit que c'est anormal parce que ces militaires, ces policiers, au lieu de sécuriser la population civile, elle sécurise les Chinois parce qu'ils ont l'argent.
La coordination provinciale de ces civils ajoute que ces minéraux ne profitent pas à l'État congolais. Bounia, Jean-Claude Louki, Dile, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, la Commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO, quelques organisations spécialisées de la société civile, des chercheurs et experts en gouvernance se réunissent depuis lundi 25 jusqu'à mercredi pour réfléchir sur le renforcement de la gouvernance socio-économique en République démocratique du Congo. À travers ces travaux, les vœux est d'identifier des solutions concrètes pour améliorer les conditions sociales des Congolais. D'autres détails avec vous, Billy Ivan Lutumba.
Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix, motive la tenue de ces assises par le souci des évêques catholiques d'accompagner le gouvernement pour l'accomplissement des actions concrètes au bénéfice de la RDC et de ses citoyens.
Au mois de juin dernier, les évêques ont reçu Madame la Première ministre et lui ont promis un appui pour la réussite de son programme. C'est dans ce cadre que nous organisons ces journées de réflexion qui voudraient d'abord identifier les défis de notre gouvernance socio-économique et après on établit le diagnostic et nous allons finir nos travaux par formuler quelques recommandations à l'endroit du gouvernement.
En lançant les travaux, Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, rappelle aux participants les défis majeurs du pays en matière de la santé, l'alimentation, l'eau et l'électricité.
Connaissant les efforts fournis par les autorités en matière d'accès en eau potable, la RD Congo reste un pays riche en eau et faible en accès à l'eau potable. Notre pays figure parmi ceux qui ont le plus faible taux d'accès à l'électricité. L'état de nos routes, tant dans les villes que dans les milieux ruraux, laisse à désirer.
Dans la suite de ces insuffisances, Cholet justifie que c'est maintenant que l'accompagnement des évêques promis au chef de l'État et à la première ministre s'avère très capital et sollicite par ricochet l'apport des experts qui participent à ces assises pour aider les dirigeants congolais.
Autre nouvelle, les partis politiques Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito s'érangent derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi pour soutenir les projets du changement de la constitution actuelle de la RDC. Dans une conférence de presse qu'il a tenue hier lundi ici à Kinshasa, le secrétaire général de ces partis a donné quelques raisons justifiant la réforme du pays à travers le changement de la constitution. L'idée principale de Nouvel Élan est de retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale du pays. Des détails avec Askin Zigbia Tayoro.
Dans sa communication, Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, a été clair. Il ne faudra pas qu'en parlant du changement de la constitution du pays, qu'on puisse manipuler le peuple. Pour lui, cette question mérite d'être plutôt débattue en toute responsabilité autour des évidences au risque de promouvoir un déni de démocratie. C'est dans cette optique que le parti d'Adolphe Mouzito a salué l'initiative du chef de l'État, celle qui consiste de mettre en place une commission représentative de toutes les forces politiques et sociales en vue de traiter de cette question. Cependant, le Nouvel Élan et son leader proposent que la dite commission soit coordonnée par l'opposition. Blanchard Mongomba rappelle que son parti a été l'un des rares partis politiques qui avait battu campagne avec des idées claires en ce qui concerne la révision de la constitution qui pouvait amener à son changement total pour réhabiliter le peuple dans sa souveraineté. C'est ainsi qu'il a lancé un vibrant appel à tous les Lumumbistes de se joindre à son parti pour corriger à jamais l'œuvre des impérialistes.
Ouverture ce mardi à Kinshasa du 5e congrès de la Société mondiale africaine de la neurochirurgie. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, qu'il inaugure et sous les thèmes « La nouvelle conception mondiale de la neurochirurgie », ce congrès accueille plus de 300 experts, praticiens de cette discipline, venus de 86 pays pour échanger leurs expériences et informer le public de la nouvelle conception de la discipline. Selon le docteur Jeff Ntalaja, secrétaire général de cette société, ces assises visent à faire rayonner la neurochirurgie en Afrique. C'est le point culminant qui permet aux congressistes d'aborder les innovations médicales et les défis spécifiques à la neurochirurgie. Les travaux vont durer 4 jours. Le député provincial du territoire de Kibombo, dans la province du Maniema, Dr Papi Omeyonga Chopa, appelle les parents de ces coins à apprêter les enfants afin de recevoir leur dose de vaccin. C'est en prévision de l'organisation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite le 28 novembre prochain. L'objectif de cette activité est de protéger les enfants contre cette maladie. Il lance cet appel suite à la résistance de certains parents et certaines croyances qui s'opposent à la vaccination. Papi Omeyonga Chopa, les dit à Florence Kizalunga.
J'étais à Kibombo, j'ai trouvé qu'il y a des problèmes par rapport à la vaccination. Il y a les enfants en âge d'être vaccinés qui sont insuffisamment vaccinés. Et pendant que j'étais en train d'échanger avec les professionnels de santé, nous avons trouvé qu'il y a certaines personnes qui résistent et surtout les responsables de certaines églises. Quand même, nous avons eu le temps d'approcher ces responsables et nous avons échangé avec. Je pense que pour la campagne qui va commencer d'ici le 28 de ce mois, je pense que ces enfants-là seront vaccinés. Nous demandons à tous les parents d'apprêter les enfants parce qu'on sait que le vaccin n'a aucun inconvénient dans le corps d'une personne et le vaccin d'ailleurs renforce l'immunité des enfants pour lutter contre différentes maladies. Et en plus de cela, faire vacciner, c'est aimer son enfant, c'est le protéger de toutes les maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. Et nous demandons à tous les parents de les apprêter et que les professionnels de santé passeront de porte à porte pour faire vacciner tous les enfants en âge d'être vaccinés et qu'on ne demande rien, pas même un franc congolais. Le vaccin est gratuit et sera donné gratuitement à tous les enfants.
La ville de Kinshasa accueille du 26 au 29 novembre la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme au chapiteau du Palais du Peuple. Le ministre du Tourisme Didier Mpambia l'a affirmé ce lundi lors du briefing de presse tenu avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa. Il a expliqué que ce forum des 4 jours vise à faire du secteur touristique l'un des leviers du développement du pays. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Placé sous le thème « Tourisme et paix », ces assises se proposent de vendre autrement l'image de la RDC via ses potentiels touristiques. Devant la presse, le ministre du Tourisme a encouragé les Congolais à montrer à la face du monde les richesses touristiques qui regorgent leur pays en lieu et place de distiller des images de guerre, de famine et des souffrances qui ternissent l'image du pays. Pour Didier Mpamba, cela va non seulement attirer les touristes étrangers, mais également permettre au gouvernement de renflouer les caisses de l'État à l'instar des autres pays africains comme le Kenya. Il a également exprimé la volonté du gouvernement de réhabiliter quelques sites touristiques du pays qui se trouvent pour la plupart dans un état de délabrement très avancé. Didier Mpamba.
Si nous prenons par exemple le site de l'Antselé qui est une de nos cibles aussi en termes de réhabilitation, il y a sur ce site la possibilité de faire naître ce qu'on appelait à l'époque une céléfolise. Mais maintenant, on est dans une ère où on peut faire des aquaparcs à ce niveau-là. Un jardin zoologique qui permettrait d'offrir à cette population des produits beaucoup moins chers que ceux qu'il y a pour l'instant. Le tourisme peut être un vecteur de paix.
Il faut noter que l'accès à ces forums de 4 jours est gratuit. Il connaît la participation de plusieurs provinces du pays, dont Kinshasa, la Tchopo, les Haut-Katanga, les Nord et les Sud Kivu.
Actualité internationale.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a dévoilé le 25 novembre 2024 la liste définitive des candidats aux élections législatives du 29 décembre, boycottées par une frange importante de l'opposition. Parmi les candidats du MPS, les partis du défunt président Idriss Déby, aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mahamat Idriss Déby, dont les dossiers avaient été rejetés par l'agence électorale. Le Conseil a confirmé l'inéligibilité de son secrétaire général Mahamat Zen Bada, mais repêché deux autres figures.
L'invité.
La congestion du parc national de la Lomami Penel, une affaire à nous tous. La province du Sankuru s'engage dans la protection de ses parcs et sa biodiversité. Le président de l'Assemblée provinciale de cette province l'a dit le week-end dernier à l'issue des assises de la deuxième édition du comité de coordination des sites Kokossi élargi, Maniema Sankuru Tchopo, organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICSN. Le député Lambert Makondjo et notre invité, il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le député Lambert Makondjo, bonjour.
Bonjour madame.
Après avoir participé à la deuxième édition du Kokossi élargi de l'ICSN, quel est le point de vue de la province du Sankoro à ses assises?
Bon, nous sommes contents que les organisateurs, le PNL et l'ICSN puissent inviter la province du Sankoro. La population du Sankoro n'est pas encore largement sensibilisée sur les activités de l'ICCN chez nous. C'est ainsi que nous sommes satisfaits lorsque l'ICCN intègre cela dans son plan opérationnel de 2025 pour élargir les sensibilisations et commencer à intégrer la province du Sankuru pour que la province du Sankuru puisse ressentir les retombées des activités que mènent l'ICCN et ses partenaires dans notre province.
Avant cette sensibilisation, comment s'est comportée la population du Sankuru vis-à-vis de la biodiversité?
Non, mais comme vous le savez, la province du Sankuru est l'une des provinces de notre pays qui regorge une biodiversité et des richesses fauniques énormes. Mais le problème, c'est que nous avons aussi fait notre plaidoyer auprès de l'ICCN pour que l'ICCN installe ses installations provinciales chez nous. Et ce sont les gens qui sont des techniciens qui peuvent encadrer ces richesses-là. La population n'est vive que de la forêt. Donc, c'est difficile de les empêcher sans sensibiliser au préalable comment ils doivent se comporter, comment ils peuvent être encadrés.
Selon vous, ça sera comment alors que vous venez de participer déjà à ces assises? Je pense que c'est déjà un pas.
Absolument. Nous avons donné notre disponibilité au nom de la population du Sankuru à ce que la population du Sankuru accepte d'écrire une nouvelle page avec l'ICCN, avec le PNL et ses partenaires, l'ICCN et ses partenaires dans le domaine de la conservation de la nature chez nous. Voilà.
C'est-à-dire, vous sortez avec un engagement, vous aussi, de sensibiliser votre population pour le bien-être du parc national de la Lomami.
Absolument, absolument, parce que nous sommes aujourd'hui intégrés dans les réseaux parlementaires pour la conservation de la nature. C'est une structure qui venait d'être créée pendant ces assises. Donc, c'est une innovation pour le parc national de la Lomami d'avoir créé un réseau parlementaire pour la conservation de la nature dont les députés du Sankuru font partie. Donc, aujourd'hui, nous pouvons effectivement collaborer, institutions et l'ICCN.
C'est-à-dire la congestion du parc national de la Lomami sera aussi votre affaire?
C'est notre souhait.
Mais pourquoi dans votre adresse, vous avez déploré le fait que la population du Sankuru, une fois arrêtée, est jugée au maniement?
Oui, nous avons déploré cette pratique qui consiste à arrêter les gens dans la province du Sankuru et venir les juger dans la province du Maniema. C'est une violation de la loi parce que les juridictions des jugements, comme je l'ai dit dans la salle, ont une compétence territoriale. Et donc, les gens qui sont arrêtés dans la province du Sankuru peuvent être jugés dans la province du Sankuru parce que les lois congolaises sont les mêmes.
Et quelle a été la réaction des autorités de l'ICCN?
Non, c'était une observation que les autorités de l'ICCN doivent intégrer dans leur plan opérationnel de l'année 2025.
Et cela posait quoi comme problème?
Non, mais cela prouvait un mépris, une irréconnaissance de la part des autorités de l'ICCN qu'il existe une province dans laquelle ils ont des activités, la province du Sankuru.
Alors, Monsieur Lambert, vous avez représenté valablement la population du Sankuru à ces assises pour une meilleure protection du parc national de la Lomami. Qu'est-ce que vous dites à cette population?
Le message à la population du Sankuru, c'est que nous devons écrire une nouvelle page pour de nouvelles expériences avec l'ICCN dans notre province. Voici le message principal.
Cela aidera à quoi et pourquoi écrire une nouvelle page?
De pour parler Sankuru. Je pense que je ne saurais pas tout dire ici, mais c'est que je sais, je reconnais effectivement que la collaboration entre l'ICCN et la communauté locale n'était pas aisée. Cette collaboration n'était pas rose, mais aujourd'hui, on accepte d'écrire une nouvelle page. C'est que cette nouvelle page sera remplie de nouvelles expériences.
Quel serait votre engagement après ces assises?
Engagement, c'est de travailler dans le cadre de réseaux parlementaires pour la conservation de la nature, pour que la conservation devienne une affaire de tous.
Monsieur le député Lambert Makondjo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal des midi sur Radio Kapi, journal mis en onde par Billy Landry Betou, supervisé et coordonné par Martin Sebudjangwe et Élisée Chiko Tachivueta. Patience Ngalou Lambombo était à la présentation. Merci à vous tous de l'avoir écouté.